Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Génocide Rwanda, qu'attendre de l'arrestation de Félicien Kabuga? Il a été arrêté samedi à Asnières-sur-Seine, en région parisienne, sous une fausse identité, présenté comme l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, et ce depuis plus de 20 ans. Il est accusé d'avoir eu un rôle prépondérant dans le génocide des Tutsis au Rwanda, notamment d'en avoir été le financier. À 84 ans, il est poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité. Un procès est attendu. Que faut-il en attendre? Bonjour Hélène Dumas.
Bonjour.
Vous êtes historienne chargée de recherche au CNRS et vous avez publié un ouvrage important, Le génocide au village, le massacre des Tutsis au Rwanda, aux éditions du Seuil. Hélène Dumas, il faut d'abord nous présenter cet homme, Félicien Kabuga.
Oui, en effet, il n'est pas connu du grand public, même si c'était, vous l'avez rappelé, un des fugitifs les plus recherchés. Les États-Unis avaient mis pour sa capture la somme de plus de 5 millions de dollars. Très recherché, cet homme est né donc en 1935 dans l'ancienne commune de Mukarange, dans la préfecture de Byumba. Et c'était à l'époque, donc en 1994, l'une des grandes fortunes du Rwanda. Il a fait fortune dans le commerce du thé essentiellement. Et puis, il est également propriétaire d'une minoterie et d'un grand centre commercial à Kigali.
Mmh. Et comment cet homme est-il devenu un génocidaire, le financier, l'un des financiers du génocide?
Donc c'était quelqu'un qui était très riche, qui disposait d'une fortune très importante et qui était lié par les alliances matrimoniales de ses filles, en particulier au cercle le plus étroit du pouvoir autour de Juvénal Habyarimana et plus précisément autour de la femme de l'ancien président du Rwanda, Agathe Kanziga, qui elle aussi réside en France actuellement. Et ce petit cercle du pouvoir qu'on a surnommé la Kazou, la petite maison en Kinyarwanda, c'est à travers ces réseaux que se constituait véritablement le noyau dur des extrémistes hutus, à partir donc desquels ont été fondées deux institutions extrêmement importantes avant et pendant le génocide, qui ont été particulièrement violentes avant et surtout pendant le génocide, que sont la radio-télévision libre des Mille Collines, qui a été fondée en avril 93, mais qui a commencé à émettre en juillet de la même année, et surtout la milice Inaramwe, qui a été fondée en 1992.
Mmh. Mmh. Oui, parce qu'il présidait la radio des Mille Collines, je le dis en tremblant, en regardant un micro. C'était un homme de radio parce que la radio a joué un rôle essentiel dans le génocide rwandais, Hélène Dumas.
Oui, pendant le génocide des Tutsis, la RTLM, la radio-télévision libre des Mille Collines, a directement appelé au meurtre en indiquant dans quel quartier se trouvaient des Tutsis, afin que les miliciens Inaramwe, en particulier dans la ville de Kigali, aillent attaquer les réfugiés Tutsis, en particulier dans un certain nombre d'endroits dans le quartier de Nyamirambo, en particulier le centre Kadhafi, par exemple, tout début avril 1994. Donc la radio a non seulement, avant le génocide, relayé les mots d'ordre extrémistes, les mots d'ordre racistes contre les Tutsis, apporté à incandescence ce racisme qui a une histoire beaucoup plus ancienne, et a également directement incité au massacre, au génocide.
Alors l'une des questions qui se pose est de savoir comment cet homme, Félicien Kabuga, réussit à échapper pendant 22 ans au limier du tribunal pénal international. Sa tête était mise à prix par le département d'État américain. Il était fiché par Interpol. Comment s'y est-il pris, Hélène Dumas?
Alors c'est effectivement la deuxième question qui est soulevée par cette affaire Kabuga. C'est à la fois son rôle dans l'histoire du génocide des Tutsis, mais également l'histoire de sa traque depuis 26 ans, depuis 23 ans si l'on considère que sa traque a débuté à partir du moment où le procureur du TPIR, du Tribunal pénal international pour le Rwanda, a lancé son premier mandat d'arrêt en 1997. Alors c'est des questions auxquelles, pour le moment, il serait très hasardeux de pouvoir apporter des réponses certaines, puisque je pense que l'enquête va viser aussi les complicités dont il a bénéficié pendant toutes ces années. Alors, le premier cercle, évidemment, ses complicités, c'est ses enfants. Il a de nombreux enfants, il a 11 enfants sont, je l'ai dit aussi, certains avaient épousé des membres de la famille Habyarimana, donc étaient très bien introduits dans les réseaux de pouvoir. disposait de réseaux constitués à la fois en Afrique, puisque le Kenya est souvent cité comme un havre de paix pour les génocidaires juste après 1994. Il a bénéficié donc de la complaisance, de la protection des autorités kényanes pendant un moment, et puis on le retrouve dès 1994 en Suisse, où il n'a pas été arrêté, il a été expulsé. Donc, il a été arrêté sur le sol français. Alors là, ça pose un certain nombre de questions.
Pourquoi l'expulser ? Parce que l'expulser est, si vous me passez l'expression, lui rendre service.
Tout à fait. Alors là aussi, c'est des questions auxquelles les autorités suisses devront certainement répondre. Je pense qu'il y a peut-être une forme d'indifférence. Il y avait à l'époque peut-être une forme d'indifférence, de méconnaissance du dossier rwandais, et que de ce fait, eh bien, ce personnage a échappé à la justice juste après le génocide.
Alors, ça n'est pas le premier génocidaire arrêté dans ce contexte rwandais. Ça n'est pas le dernier non plus. Quel est l'enjeu de ce procès, Hélène Dumas?
Alors, l'enjeu de ce procès, il va dépendre avant tout de la coopération de l'accusé. Puisque il faut savoir que dans les procédures dans les jugements, dans les procédures judiciaires, la collaboration, on va dire, des accusés avec la justice est l'exception, hein, et non pas la règle. Les plaidoyers de culpabilité ou le passage aux aveux sont extrêmement, extrêmement rares. Donc, on peut se demander d'abord si Félicien Kabuga va coopérer ou pas avec la justice. Quoi qu'il en soit, l'enquête, le procès va permettre de mettre au jour un certain nombre d'éléments, des éléments qui me paraissent très importants sur effectivement les modalités de constitution à la fois de la RTLM qui sont mieux connues, mais surtout de la milice Inyamwe qui a été donc extrêmement importante, un acteur très important dans la commission des massacres contre les Tutsis en 1994.
Peut-être qu'on...
Donc l'enjeu, c'est ça.
Peut-être qu'en conclusion, on peut rappeler qu'il reste encore quelques personnes importantes, très importantes dans l'organisation du génocide, qui sont encore en liberté aujourd'hui, Hélène Dumas.
Oui, ben je voudrais citer un cas. Il y a encore deux personnes qui sont recherchées activement par le Tribunal pénal international, tout du moins le mécanisme résiduel qui l'a remplacé en 2015. Je voudrais prendre l'exemple de Protemir Anya, par exemple, qui était le responsable de la garde présidentielle. Donc là encore, une institution au sein de l'armée qui a perpétré dès le 6 avril au soir un certain nombre de massacres, à la fois contre les Tutsis de Kigali, mais également contre des personnalités hutus démocrates. Dont la première ministre Agathe Uwilingiyimana, assassinée le 7 avril 1994. Eh bien, ce personnage serait, là aussi on parle au conditionnel, serait en Afrique du Sud, résiderait en Afrique du Sud, et il semble, d'après les déclarations du procureur du mécanisme résiduel, que les autorités sud-africaines soient rétives à remettre ce fugitif aux autorités judiciaires compétentes.
Merci Hélène Dumas, je renvoie à votre ouvrage « Le génocide au village, le massacre des Tutsis au Rwanda ». Il est publié aux éditions du Seuil.